Vos questions, nos réponses.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Vos questions, nos réponses, consacré cette fois aux aidants et à l'épuisement, un état ressenti et exprimé par un grand nombre. La majorité des aidants fait le constat d'impact réel sur sa vie quotidienne, notamment sur son moral, le temps consacré à sa famille, à ses loisirs, voire sur son travail. Plus inquiétant encore, plus d'un aidant sur deux témoigne d'un impact réel sur sa santé. Fragilisé par une situation difficile à vivre, émotionnellement et physiquement, la majorité des aidants expriment être dans un état de surmenage, voire d'épuisement. Prévenir ce burn-out représente un enjeu vital et implique de pouvoir détecter les premiers signes d'alerte. Pour nous aider à les repérer, Maïté Fontaine, psychologue, a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Madame Fontaine.
Bonjour.
Pour prévenir l'épuisement de l'aidant, pour commencer, France Alzheimer et maladies apparentées mènent souvent des formations. En quoi la formation de l'aidant est-elle essentielle et par quoi passe cette formation ?
Alors la formation est vraiment essentielle parce qu'elle permet déjà de poser des balises et de comprendre ce à quoi on peut s'attendre, même si évidemment on ne peut pas tout anticiper dans ce parcours qui s'amorce de la relation d'aide. Donc c'est déjà connaître la maladie évidemment, mais beaucoup plus que ça, il y a vraiment une particularité des maladies neurocognitives, la maladie d'Alzheimer apparentée, c'est qu'elles vont altérer la communication, elles modifient la relation et les relations que vous aviez avec votre proche depuis toujours. Il faut donc apprendre comment s'adapter, apprendre à communiquer autrement, apprendre des stratégies, des outils concrets qui ne s'inventent pas. C'est aussi comprendre les troubles et surtout ce que vit la personne malade. Et si on comprend ce qu'elle vit, ça permet de mieux s'ajuster à elle. On sait aujourd'hui à quel point le bien-être de la personne malade passe par la qualité de l'environnement et de ses relations avec l'entourage. Donc la formation permet que la personne se sente mieux, permet aussi à l'aidant de se sentir plus compétent, de préserver l'estime de soi, cette fameuse estime de soi qui est importante, pour chacun et d'éviter les situations de conflit, donc c'est pas rien. Par exemple, une règle essentielle dans l'accompagnement, c'est qu'il faut éviter de mettre la personne en échec. Mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire, mettre la personne en échec. Si on ne connaît pas vraiment ses troubles, qu'est-ce qui la met en difficulté? Je me souviens par exemple d'une fille qui déjeunait avec sa mère et pour la stimuler, elle lui demandait à la fin du repas ce qu'elle avait mangé. Et elle ne comprenait pas pourquoi sa mère s'énervait. En fait, évidemment, elle lui demandait exactement ce qu'on ne peut plus faire quand on est atteint de cette maladie-là, c'est-à-dire se souvenir. Il faut vraiment apprendre à bannir, souviens-toi, rappelle-toi, voilà, tous ces petits trucs que spontanément on va faire, mais qui en fait vont être délétères pour la qualité de la relation. La formation permet donc que la personne se sente mieux, mais permet aussi à l'aidant de se sentir plus compétent, de préserver l'estime de soi de chacun et donc d'éviter des situations de conflit.
Alors, c'est essentiel et les émotions et les étapes que va traverser l'aidant sont fortement liées au parcours de la maladie du proche qu'ils accompagnent. Ça fait aussi partie de la compréhension de la maladie et du coup des formations pour les aidants. En quoi c'est important, en quoi ça peut changer les choses pour l'aidant de bien comprendre ce parcours qu'il va traverser en même temps que son proche malade finalement?
Oui, on pourrait imaginer le parcours d'accompagnement de la personne malade comme un chemin qu'on doit prendre ensemble, donc l'aidant doit prendre aussi pour rester auprès de son proche malade, pour rester à côté, voyez, pour avancer en même temps sur ce chemin de la maladie. Si on n'évolue pas, qu'on ne comprend pas ou qu'on accepte difficilement les pertes liées à la maladie, on va continuer à voir son proche comme avant. Donc lui, il avance dans la maladie, mais nous, on reste un petit peu en arrière du chemin. On va lui demander ou attendre des choses qu'il ne peut plus faire, qui sont plus de son ressort. Parfois, au contraire, ce qui peut se passer, c'est que par protection, on va anticiper tout ce que la personne risque de perdre. Et là, on est un petit peu en avant sur le chemin, on anticipe et donc on risque de l'infantiliser, de l'empêcher de faire certaines choses pour le protéger et donc oui, de l'infantiliser. Alors, un exemple que je trouve assez parlant, c'est dans un couple, le mari, en début de maladie, prend sa voiture pour rejoindre ses amis à son club. Sauf qu'il se perd, il s'énerve. Et si sa femme lui propose qu'un ami passe le prendre en voiture, il s'énerve aussi. Donc elle a convenu en fait avec cet ami que ce soit lui qui s'impose, qui propose, qui l'appelle en disant « écoute, je passe te prendre ». Et en fait, ça passe très bien. Il faut trouver parfois des solutions comme ça qui rendent les choses plus fluides, voyez, et qui permettent d'éviter de se mettre en conflit. En fait, il y a une façon de naviguer avec les troubles qu'on peut apprendre et qui permettent en fait de rester toujours à côté de son proche dans la relation, de s'ajuster au fur et à mesure à ce que la personne n'arrive plus à faire.
Et ça va prévenir à sa manière l'épuisement de l'aidant du coup. C'est important aussi de pouvoir détecter des signaux d'alerte, des signes précurseurs de l'épuisement. Pour commencer physiquement peut-être, comment se manifestent les signaux d'alerte, les signes précurseurs voilà, de l'épuisement de l'aidant?
Alors bah, évidemment, en tout premier lieu, la fatigue qui s'installe, mais c'est une fatigue qui n'est pas toujours comme celle qu'on connaît. C'est-à-dire même si on arrive à faire une bonne nuit, on reste fatigué. Il y a une lassitude dans le long terme. Surtout qu'il y a souvent des troubles du sommeil avec des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes, de l'insomnie. Ou au contraire, on s'endort très vite, on dort beaucoup, on a du mal à sortir de son sommeil. Et malgré ces grosses nuits qui écrasent un petit peu, on n'est toujours pas reposé. Le corps peut aussi nous alerter hein, par le biais de douleurs, des petites pathologies. On peut avoir le sentiment d'être fragilisé physiquement. On peut avoir des troubles de l'appétit. Parce qu'on est fatigué, on va pas avoir envie de se préparer à manger, donc on va mal manger. Voilà, donc ça montre la tendance en fait qui s'immisce petit à petit de pas s'écouter, de se mettre un peu de côté. On va tenir le coup malgré tous ces petits signes d'alerte. Hein. C'est souvent ce qui se passe. Alors parfois oui, il y a des signes d'alerte comme ça qui vont être un peu plus parlants et qui viennent vraiment nous dire ah là il se passe un truc. Comme cette fille voilà qui a aidé sa mère, elle a réussi, elle s'est débrouillée pour passer la main pour partir en week-end. Et ben voilà, dès le début de son week-end, elle a fait une crise d'urticaire géant, qui était vraiment une façon de dire c'est trop quoi. Et elle avait conscience qu'elle tirait sur la corne, hein, c'était comme ça qu'elle en parlait. Mais elle se disait je peux tenir quand même, voilà c'est dur mais je tiens bon. Et le corps vient dire non là stop c'est trop. Donc ça c'est vraiment des choses à écouter. D'autant plus que parfois on se met de côté sur le plan médical, on se néglige, on va pas prendre le temps de consulter, on va pas prendre le temps d'aller faire l'examen que le médecin nous recommande. On estime que c'est pas grave par rapport à ce que vit notre proche malade, donc on se néglige. Je pense qu'il faut être vraiment, enfin voilà, attentif dans les mesures de prévention, c'est de prendre soin des piliers fondamentaux qui sont le sommeil, l'alimentation, l'activité physique.
D'un point de vue plus psychique, mental cette fois, quels signaux doivent nous alerter? Et quand je dis alerter, hein, il peut s'agir de l'aidant lui-même qui nous écoute peut-être mais qui ne s'écoute peut-être pas, comme vous venez de l'expliquer. Mais il peut aussi s'agir de son entourage. Peut-être que des personnes nous écoutent et pourraient voir des signes hein, chez des proches aidants qui les entourent. Donc quels sont les autres types d'indicateurs plutôt psychologiques auxquels il faudrait être vigilant? Comment ça se manifeste de ce côté-là?
Alors d'un point de vue psy, on peut devenir plus sensible émotionnellement, donc plus irritable, un peu à fleur de peau. Hein. Donc ça peut installer des conflits, on peut sentir que la qualité de la relation se dégrade un peu. Alors là, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est quand il y a des emportements, des énervements, c'est pas forcément négatif en soi. Alors, ça peut paraître bizarre d'entendre ça, évidemment, que si on s'énerve, s'il y a des conflits, c'est pas toujours positif, mais le message que ça comporte, la colère, l'agressivité, sont là en fait pour tirer la sonnette d'alarme, me dire que je suis en train de me faire écraser, que je me fais du mal. Donc au lieu de se culpabiliser, enfin ah, j'aurais pas dû, et d'en rajouter, il est important d'en prendre acte, hein, d'écouter ces ressentis-là et de se faire aider. D'autres ressentis d'alerte, ce sont aussi les sentiments d'échec, d'inefficacité, d'incapacité à se sentir à la hauteur. Voilà. Tout ça sont des pensées qui nous traversent et qui peuvent témoigner de cette dévalorisation, de cette atteinte de l'estime de soi, hein, du type « je suis nulle, j'aurais dû faire ça, j'ai pas le courage, j'aurais dû ». Ce sont des signes d'alerte à écouter au lieu de laisser s'installer la culpabilité. Alors aussi, on a au niveau mental l'impression d'avoir parfois soi-même des troubles cognitifs, parce que la charge mentale est importante, donc on va oublier un rendez-vous, on perd ses affaires, on se mélange les pinceaux. Voilà, ça c'est des choses qu'on connaît tous quand on est dans des périodes de lourdeur, hein, quelle qu'elle soit.
On a le cerveau trop plein.
Oui, c'est ça. Alors après, dans le long terme, ce qui peut s'installer, mais c'est peut-être déjà un signe que l'épuisement commence à être là. Ouais, il peut y avoir parfois une forme d'indifférence, comme si on s'anesthésie. On n'arrive plus à ressentir de l'empathie, on se sent détaché, avec même parfois des pensées très négatives hein, vis-à-vis de la personne aidée, avec des idées noires. Il ne faut pas rester seul avec ça. Et c'est normal parfois de ressentir ça, donc ça ne sert à rien de se culpabiliser, de se dire je prends sur moi, je ne le dis pas. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est connu dans ce type de relation d'aide dans le long terme. Être alerté aussi lorsqu'on se replie sur soi, quand on se met un peu en retrait de la vie sociale, de ses loisirs. Et là, c'est important d'écouter ses proches hein, qui disent « on ne te voit plus, tu viens plus, voilà, à chaque fois que je te propose quelque chose, tu dis que tu n'as pas le temps, que tu ne peux pas. Voilà. » C'est important d'écouter les proches qui, eux, ont un regard distancié et qui peuvent vous aider à prendre conscience que vous avez besoin d'aide. On peut même, en amont, hein, en mesure de prévention, solliciter ses proches en leur demandant d'avoir un peu ce rôle de sentinelle, convenir d'un code qui est entre nous pour dire « voilà, attention, là, tu commences à pas aller bien et je m'en rends compte ». Parce que justement, cette difficulté quand on est aidant, c'est comme on est tourné vers son proche, on est moins tourné sur soi, on voit moins bien ses signaux. Donc, pour résumer, à retenir avant tout, ça va être chaque signe, sans les dramatiser, va venir signaler quelque chose, c'est important de l'entendre. Comme les différents épuisements s'enchevêtrent, ils peuvent retentir sur tout le reste. Et le deuxième point, c'est vraiment enregistrer et comprendre que pour bien s'occuper de son proche, il faut bien s'occuper de soi.
C'est une phrase clé qui revient souvent, oui. Parce qu'elle est vraie. Alors, une fois qu'on a repéré certains de ces signaux, que certains de ces éléments commencent à survenir dans la vie quotidienne de l'aidante ou de l'aidant, j'ai deux questions. Premièrement, si on est dans l'entourage de ce proche aidant, comment est-ce qu'on peut alerter finalement cette personne? Il y avait cette histoire de code dont vous venez de nous parler. Est-ce qu'il y a une manière pour l'entourage de s'adresser à ce proche aidant?
Ce qui est compliqué, c'est que plus l'épuisement s'installe, plus c'est difficile pour la personne d'entendre, parce qu'il peut y avoir cette atteinte de l'estime de soi, et que si on vient vous donner des conseils ou qu'on vient vous dire « attention, ça va pas », ça va appuyer sur le fait que je me sens en échec inconsciemment, et donc la personne peut se fermer, se vexer, voilà. Donc, dès qu'on sent que la personne prend un chemin qui devient lourd, etc., il faut pas attendre. Il faut le dire très tôt, avant que la situation se verrouille, en quelque sorte. Hein. C'est le risque, c'est que plus on est mal, plus on va verrouiller les choses. Et donc, il faut chercher le point d'accessibilité, sans doute en évitant d'être moralisateur, en évitant d'être celui qui arrive en disant bah, « tu dois faire ça, il faut », ce sont des injonctions, mais d'être plutôt dans une approche douce, d'inviter la personne aidante à s'exprimer, à parler de ses difficultés. Et petit à petit, ça peut l'amener, comme ça, dans le dialogue, à prendre conscience que ça va pas. Mais c'est sûr que si vous arrivez avec vos gros sabots en disant « écoute, voilà, ça va pas, il faut que tu fasses ça, arrête de tout faire, prends des aides à domicile », voilà, c'est compliqué à entendre.
C'est ça. Et puis, rien n'est si simple, donc on peut pas arriver, effectivement, comme un grand sauveur avec plein de solutions, puisque les choses ne sont quand même pas si simples. Donc déjà, il faut effectivement pouvoir les entendre et puis ensuite pouvoir essayer de trouver des solutions adaptées à sa situation.
C'est ça.
Et alors, une fois qu'on a repéré du coup certains de ces signaux et que certains de ces éléments commencent à survenir dans la vie quotidienne de l'aidante ou de l'aidant, comment agir pour prévenir le burn-out? On a repéré déjà les signaux, maintenant qu'est-ce qu'on fait?
Se faire aider dès le début et puis au maximum lorsque les choses s'installent. Voilà, parce que le risque, c'est de se replier, de s'installer dans la certitude qu'on peut y arriver tout seul et c'est ça qui risque de se verrouiller. Au niveau physique, on va évidemment essayer d'alléger au maximum la charge, être attentif à la logistique, anticiper certaines choses, être attentif aux déplacements. C'est-à-dire que pour gérer la charge physique autant que mentale, il y a tout un tas de choses qu'on peut anticiper sur les aides possibles, à domicile, pour des courses de ménage, voilà. On peut commencer à rassembler des adresses de services à domicile, d'activités, de relais. N'oubliez pas que la formation des aidants de France Alzheimer permet aussi d'avoir plein de clés à ce sujet, de toutes les aides possibles, de tout ce qu'on peut mettre en place. Trouver des relais, même si ce sont des petits relais, hein, ça peut être une voisine qu'on peut solliciter pour qu'elle jette un œil, pour qu'elle passe une fois par semaine, une fois par mois, des amis de la personne, même des gens un peu plus éloignés, enfin voilà, un coup de fil, voilà, tout ce qui peut faire aussi point de vigilance à mes côtés. Et puis on peut aussi, évidemment, consulter son médecin traitant pour prendre soin de soi. On peut vous soutenir sur le plan physique, faire des petits conseils, vous donner des compléments alimentaires, mais aussi faire un petit bilan de santé. C'est déjà se redonner de la place, prendre soin de soi, et c'est pas négligeable. Et puis sur le plan psychologique, on peut identifier tout ce qui nous fait du bien, hein, ce qui nous ressource, ce qu'on doit préserver à tout prix. Ça peut être le cours de gym du mardi soir, le temps avec les enfants le week-end, aller se promener, enfin voilà. Identifier et conserver ces moments-là, leur donner un niveau de priorité important. C'est souvent ce qui va passer à la trappe rapidement, alors qu'en fait, c'est vraiment loin d'être anodin, c'est important. Là aussi, ce sont des balises dans le temps qui vont nous permettre de nous ressourcer, de nous aider à nous réguler. Et puis, bah, y a aussi, évidemment, ne pas hésiter à consulter un psychologue, hein, sans attendre nécessairement d'aller mal, mais ça permet d'avoir un regard extérieur, justement, pour se situer, prendre conscience d'où on en est vraiment. Et puis c'est aussi être accompagné, soutenu, pouvoir exprimer ce qu'on ressent, pouvoir vider son sac. Même si vous avez le sentiment d'aller bien, hein, c'est encore une fois poser des balises pour ne pas se perdre en chemin.
Il y a aussi des techniques de ressources. Est-ce que vous en auriez à nous conseiller ?
Alors, il en existe pas mal, hein, tout ce qui passe par le corps, par la relaxation. Il y a des techniques d'ancrage, de respiration qui ressourcent le mental et l'émotionnel. Moi, il y en a une que j'aime bien, c'est la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, c'est quoi ? C'est relativement simple. C'est l'acte de prêter attention au moment présent et d'ouvrir toutes ces petites fenêtres sensorielles de perception et d'être pleinement conscient de tout ce qu'on peut ressentir. Et ça consiste voilà, à ouvrir ses cinq sens, être à l'écoute de soi, de ses sensations. Ça permet d'arrêter le flot de pensée. Ça permet aussi de nourrir le mental, l'émotionnel et de retrouver des petits moments de plaisir. Parce que quand on ressent les choses, quel que soit le sens, c'est des sensations qu'on va chercher qui sont agréables, hein. Donc c'est on peut saupoudrer comme ça sa journée de moments où on ressent quelque chose de positif, même de façon très simple, très primaire, sentir l'air frais, sentir quand on sort les rayons du soleil, toutes ces petites choses qui nourrissent finalement, qui ont l'air anodines, mais qui sont très importantes. Donc c'est à notre disposition à tout moment. Et évidemment, plus on met en place tôt, plus c'est un outil dont on va disposer facilement. Comme autre petite technique importante, c'est le fait de ne pas rester seul surtout. Et là, je voulais quand même parler des groupes de soutien, des aidants, des permanences d'écoute qui sont accessibles. Hein. Il y en a une multitude. Mais évidemment, France Alzheimer en propose. Il ne faut pas hésiter parce que c'est une aide aussi de personnes voilà, qui vivent la même chose, qui savent ce dont il s'agit et qui peuvent entendre aussi avec bienveillance et sans jugement tout ce que vous pouvez ressentir. On peut aussi solliciter ses amis. Hein, alors, ils peuvent parfois être démunis, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas toujours comment vous aider. Mais plus vous leur parlez, plus vous leur expliquez, vous pouvez convenir ensemble de comment ils peuvent vous aider. C'est important de faire ce pont vers eux qui permet ensuite qu'eux puissent venir vers vous. Je pense à un exemple, c'est une situation où le couple s'isolait et parce que les amis n'osaient pas inviter à dîner, ils avaient peur de ne pas savoir comment parler à la personne malade, de se sentir maladroit, voilà. Et en fait, c'est l'aidante qui leur a dit « Mais non, s'il vous plaît, continuez à nous inviter à dîner. Voilà des choses qu'on peut faire. Voilà ce qu'il faut éviter de faire. » Voilà, en donnant des indications, en expliquant les choses, ça permet de vraiment d'ouvrir les portes au sens propre comme au figuré.
Exactement. Bien, merci beaucoup Maïté Fontaine pour vos conseils et pour vos explications. Et comme vous l'avez si bien dit, hein, petite information pour nos auditeurs, vous pouvez bien sûr retrouver hein, tous nos conseils et plus d'informations hein, sur les formations ou les aides, notamment les solutions de répit qui sont proposées pour les aidants par l'association France Alzheimer et maladies apparentées sur le site internet www.francealzheimer.org. Et puis bien sûr, nos épisodes complémentaires hein, sur le site de la radio. où on vous retrouve également, Maïté Fontaine, pour d'autres épisodes. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Si vous aussi, vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.